RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant la fin du championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit, on est là. C'est à l'after avec Ludovic Obraniak, avec Jonathan Macardy. Dans quelques instants, on va parler Brésil. Juste avant, on finit avec Fred, qui est toujours avec nous. Fred, tu t'es pas trompé sur Ferland Mendy. Tu nous l'avais annoncé.
Avec son...
Alors qu'Yvan Lemay, son agent, est en train, nous a dit « Ouais, pas sûr » et tout. Bon. Hazard, tu l'avais dit aussi.
Donc maintenant, tu nous...
Depuis des mois, en plus. Depuis
tu nous annonces quoi, maintenant?
Le prochain, l'objectif, c'est Pogba, quoi. Zidane n'en démord pas. Alors, Florentino trouve que c'est cher, que les exigences de Pogba, c'est au moins 15 millions nets, c'est pas possible. Quand tu arrives au Real, tu peux pas devenir le joueur le mieux payé. Sauf si tu es un ultra méga galactique et il n'est pas considéré comme un ultra méga galactique.
Qui est le mieux payé, Fred? C'est Ramos?
Alors, au moment, maintenant, là, c'est Bale, mais il va partir à 15 millions. D'accord. Ramos, il a 12 millions, net après impôts. Hein.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en brut, c'est du 30 millions.
Eden, il va tourner à combien?
Oh, il doit être pas loin de 15. Hein. Je pense que lui, il a dépassé Ramos, mais il doit être pas loin de 15. Ça, c'est clair. Mais le Pogba doit baisser son salaire d'au moins 5 millions. C'est-à-dire que Pogba, s'il vient ici, ça sera 10 millions, pas plus. Donc, c'est compliqué. En plus, il y a la Juve qui est là, qui on le sait. Hein, notre ami Simone Rovera nous l'a expliqué. Hein, il y a une grosse opération séduction de la Juve pour un retour du milieu champion du monde de Manchester United. Donc, c'est compliqué, mais Zizou n'en démord pas. Le Real a dit « Ah, tu veux pas Eriksen ?» Non. Ouais, donc voilà. Après, les amis, là, le Real, ils sont un peu énervants parce que ils ont fait plein de joueurs, là, 5 finalement, alors qu'on est à la mi-juin. Il reste 2 mois et demi de mercato. Il reste 2 ans et demi de...
2 mois et demi.
Hors-vente, ils ont combien encore, là? À dépenser.
C'est-à-dire
hors-vente.
À dépenser.
Hors-vente, hein.
Hors vente, c'est-à-dire que t'es obligé de compter les ventes. Il faut au moins 300 millions de ventes. Parce que, au moment où je vous parle, l'effectif du Real, aujourd'hui, ce soir, c'est 37 joueurs. Alors qu'il y en aura 23-24. Donc il faut, voilà,
c'est deux fois moins pour Monaco.
Ouais, il y a beaucoup de joueurs à vendre. Alors, il y en a beaucoup qui sont prêtés. Les Raoul de Thomas, les Kovacic, les Mayoral.
Et juste Fred pour nos amis lyonnais. Est-ce que c'est possible, Ceballos à Lyon?
C'est possible parce que Ceballos, il faut absolument lui trouver une porte de sortie. Zidane n'en veut pas.
Tu penses qu'il sera intéressé pour venir en France?
Le problème, c'est qu'il a un petit melon, lui.
Ouais, mais c'est un bon joueur quand même. Hein.
C'est un très bon joueur, mais quand t'es, il faut voir que dans n'importe quelle équipe, il faut que tu gagnes ta place, quoi. Ouais. Donc il est arrivé avec plein de gens qui lui
disent. Mais t'en as entendu parler de ça? Peut-être à l'occasion des négociations pour Ferland Mendy.
Non, okay. J'en ai pas entendu parler.
D'accord.
Mais après, c'est un très bon joueur. Techniquement, c'est du très bon espagnol. Et voilà. Mais ça, j'en ai pas entendu parler.
Il a trouvé étincelant. Je crois que c'était à Coupe du Monde ou Espoir ou Euro, je sais plus.
Non, c'était à l'Euro Espoir.
L'Euro Espoir, il a été magnifique.
Il avait
été
Fred, en cas de départ de Bale, on va recruter côté droit ou c'est Asensio qui va être relancé?
Asensio va être relancé par Zidane. Il va avoir sa dernière chance. Mais on sait très bien quel est l'objectif qu'ils vont essayer jusqu'au 31 août au soir. Ne criez pas, les amis du PSG, c'est une réalité. Ils sont comme des malades. D'ailleurs, le public s'est pas trompé aujourd'hui.
Bien sûr, oui.
Ben oui, non, mais c'est-à-dire que le public chante ça parce que et ce qui s'est passé dans le public. Faut pas oublier que les gens qui sont dans le public sont les gens qui votent, hein, qui élisent le président. Et le président, lui, il écoute ce qu'on lui dit. Donc,
qu'est-ce qu'ils peuvent être prêts à mettre le Real pour Mbappé? 250?
Ah non, plus.
Plus que 250?
300. La première offre, c'est 280. Ils sont prêts à monter à 300 millions. Ils savent que c'est. Donc voilà, c'est. Non, mais ouais, bah oui, mais bah qu'est-ce que tu crois? Bah ouais, bah là, c'est. Tu sais, quand le Real perd, le Real dépense. C'est ça.
Tout ça pour pas jouer en neuf. Hein? T'imagines?
Oui, t'inquiète pas, il viendra au Real. Même solidité de gardien, il sera gardien. Tu vois.
Frédo, en tout cas, merci pour toutes ces infos.
Non, mais c'était très sympathique.
Juste un truc. Tout à l'heure, j'ai dit oui. Lui faire faire le tour du terrain, balancer des ballons. Voilà. On aurait dit un spectacle d'Otari. Alors c'est vrai qu'à la limite, un footballeur qui balance des ballons, c'est toujours mieux qu'une Otari qui balance des ballons au fond. Non, mais c'est vrai.
Non, mais bien sûr, les Otari, elles ont rien demandé surtout.
Oui, les Otari n'ont pas demandé à balancer. Les Otari ne sont pas des footballeurs.
Exactement.
Bon, enfin là, c'était un peu too much. Quand même, non, globalement.
J'ai
eu un peu peur, Fred. La malédiction des jonglages au Real, j'ai eu un peu peur.
Mais
il s'en est sorti avec talent.
Il s'en est très bien tiré. Mais en fait, toutes les équipes d'Espagne font offre des ballons aux supporters. Ça fait partie du truc, c'est une tradition espagnole. Et il y a plein de gamins qui viennent parce qu'ils peuvent avoir un ballon gratuit. Tu sais, c'est comme au baseball quand tu attrapes la balle, quoi.
D'accord.
Tu la gardes, donc non, mais ça c'est vrai que vu d'extérieur ça fait un petit peu bizarre, mais ici c'est tout à fait naturel et dans n'importe quel club.
Merci Fred, salut.
Ciao Fred.
Bon bah ça fait un francophone de plus. Hein. Ouais. Allez. Allez
salut. Oh là là là. Ce Fredo il rebondit d'année en année.
Oh là là là, je reviens bah, en force là. Prends garde à toi, Julien Laurence.
Là il a récupéré Zidane, Hazard, Ferland Mendy, Pogba,
qui reste. Ah je me dégoûte.
C'est un club français bientôt.
D'ailleurs, vous savez que Real Madrid, le vrai nom du Real Madrid, c'est Real Madrid CF, CFE, qui veut dire Club de Football. Et moi, je l'ai rebaptisé Real Madrid Club Francés.
Ah ouais.
Bravo. Club français.
Tu vas pas te faire connaître à Madrid si tu dis ça à tout le monde.
Ah non, mais là, en ce moment, être français, c'est le must. Attends, mais ils sont comme des malades. Mais t'as vu, ils chantent Mbappé. Moi, je sors en bleu, blanc, rouge.
Salut Fredo.
Adios.
Bonne soirée. Attention, adios. On change complètement de pays. On va passer à la Copa América tout de suite. Ils m'ont même pas prévu une petite digue brésilienne là. Tu vois un truc un peu cliché, color Copacabana et tout. On va trouver ça. On accueille Stéphane Rosenbaum qui était déjà venu, hein, qui venait nous voir régulièrement pendant la Coupe du Monde et tout. Ça va Stéphane?
Ça va très bien. Bah, vous me manquiez.
Tu es en France toujours là, t'es bien, tu parles de mieux en mieux, tout ça.
C'est... Toujours en France, c'est vrai que mes profs du lycée français à l'étranger, au Brésil, sont contents de mon français, j'imagine.
Ah bah non, mais là t'es parfait.
Ah oui, parfait, t'es parfait.
Non, mais d'ailleurs, comment se fait-il que vous ayez cette faculté, les Brésiliens, là, à apprendre le français aussi vite? Il y a Marquinhos, il parle un français parfait en l'espace de 6 mois, vous êtes trop forts les gars.
Ouais, sauf Neymar.
Oui, mais bon, bah écoute, il fallait bien qu'il y en ait un.
Mais c'est vrai que ça ressemble. On a beaucoup de mots en français au Brésil. Sofa, abat-jour. Donc.
Abat-jour, tu dis abat-jour.
Abat-jour. C'est pas exactement la même chose. Pour nous, l'abat-jour, c'est la lampe.
D'accord.
C'est pas. C'est pas et ici, non, pour nous, l'abat-jour, c'est tout l'objet, quoi.
D'accord.
Et ici, quand on demande juste un abat-jour, c'est juste la partie qui couvre la. Donc voilà, au début j'étais un peu perdu aussi quand j'allais en France.
Enfin, c'est pas un mot que tu utilises en même temps tous les jours, pas se mentir. Alors, la Copa América démarre donc dans la nuit de vendredi à samedi au Brésil. Évidemment, l'actu brésilienne est toujours dominée par Neymar. Alors Neymar, rappelons qu'il n'a plus le capitana depuis quelques semaines, on pourra en reparler. Il y a donc l'histoire du viol présumé qui est toujours en cours. D'ailleurs aujourd'hui, il a été auditionné par la police au Brésil. Avant qu'on parle de la Copa América, il participera pas à la Copa América par ailleurs puisqu'il est blessé. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de Neymar principalement ou de la Copa América au pays?
95% Neymar. 95%.
Ah ouais.
Et c'est une vérité. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, un étranger qui arrive au Brésil, qui met son pied dans l'aéroport, que ce soit à Rio, à São Paulo, il n'y a pas une affiche, il n'y a rien. On ne sait rien, on sait même
sur
pas.
Sur la Copa América?
Rien, absolument rien. Alors, pas de drapeau, incroyable. Les gens, les villes, les rues marchandes ne vendent pas de drapeau, de sifflets, de vuvuzela, toute la panoplie. Non, rien. Absolument rien. Et bien sûr, ce qui domine les médias, côté sport, c'est toujours cette affaire Neymar. Et sinon, à part ça, bah, c'est la question politique et les fuites de
ouais,
messages.
Les affaires hors sport avec Bolsonaro.
Exactement.
Et Neymar, les Brésiliens disent quoi? Est-ce qu'ils sont majoritairement de son côté? Est-ce qu'on le condamne? Alors, l'affaire judiciaire est en cours, hein, donc évidemment, pour l'instant, il n'y a rien de jugé. Mais quelle est l'opinion générale au Brésil sur cette histoire?
Faut pas oublier que le Brésil est un pays extrêmement machiste. Et donc, en disant ça, je pense que j'ai tout dit. C'est-à-dire que avant même qu'il y ait...
Les circonstances, la pauvre jeune fille, elle vient de se faire refouler deux fois par son avocat.
Trois fois.
Trois fois même. Il y a la police qui a porté plainte.
Ouais, ça c'est l'info du jour, t'as raison.
Exactement. Elle.
Donc, alors, c'est vrai. Je voulais dire qu'avant même tout ça, au Brésil, l'opinion publique était déjà majoritairement à faveur de Neymar, dans les groupes de footballeurs, tout le monde disait, mais voilà, c'est quelqu'un qui veut ou qui voulait recevoir
une machination,
de l'argent, et c'est une machination. L'affaire est en cours, mais c'est vrai que c'est très compliqué là maintenant pour cette Najila.
C'est son prénom.
C'est son prénom, parce que voilà.
Qu'est-ce qui se dit là-bas? Elle a été pilotée par quelqu'un. Je suppose que c'est des gens qui lui ont demandé de faire ça. C'est quoi les?
Moi, je pense que c'est quelque chose beaucoup plus simple.
Oui.
Quelque chose qui est dans l'ordre de l'intime, dans l'ordre de se sentir rejeté. D'ailleurs, dans la petite vidéo qui est sortie, on la voit dire tu m'as laissé toute seule. Je suis venu du Brésil.
Comme si elle avait voulu se venger, en fait.
Voilà.
En quelque sorte.
Je suis venu du Brésil. Je suis venu à l'hôtel. Je suis venu pour te voir. Et toi, t'es parti. Et donc, pour elle, c'était quelque chose de inimaginable.
Alors, l'info du jour, la concernant, c'est que donc, comme tu dis, Ludo, la police brésilienne a déposé plainte contre elle. Pour diffamation, puisqu'elle a dit dans une émission de télé, en fait, il y a une histoire de tablette sur laquelle elle aurait enregistré une vidéo. La tablette a été volée et la police, a enquêté sur cette tablette, sauf qu'elle a rien trouvé. Donc elle dit, comme par hasard, la police a rien trouvé. Donc la police dit, attendez, nous on fait notre boulot, donc on peut pas laisser dire ça. Donc
c'est surtout la police scientifique qui est allée sur place, qui n'a trouvé aucune empreinte, pas de porte fracturée, fenêtre cassée. Et c'est à ces gens-là qu'elle a dit, voilà, les gens de la police scientifique ne savent pas faire leur boulot, et voilà, et donc la police a...
Bon, voilà pour l'affaire, donc évidemment toujours en cours. Neymar, donc, il a plus le brassard, c'est quand même, le mec, sale moment quand même, blessé, au milieu d'une affaire, il a plus le brassard. Le brassard, le fait qu'il l'ait plus, raconte-nous, c'est à quoi? C'est un choix du coach ou c'est...
Ça a été un choix de la, pas seulement du
coach.
Est-ce
que c'est vraiment un choix du coach? Parce que nous, en France, on a entendu que c'était un choix du coach lié à l'altercation avec le supporter en finale de Coupe de France.
Exactement.
C'était... Pour nous, cette altercation, on se dit, attends, le gars, il a insulté la terre entière, là, qui passait. On se dit, après tout, bon, ça n'excuse pas le geste de Neymar forcément, mais enfin bon, le type, il a quand même cherché.
C'est mal connaître Tite, c'est ça.
Et lui, ce truc-là, c'est devenu un truc important quand même pour le sélectionneur.
Et je pense qu'il y a tout aussi l'historique de l'image de Neymar avant ça, pendant la Coupe du Monde. La Fédération brésilienne de football et Tite attendaient un comportement irréprochable de Neymar. Et
ça, qui devienne un peu plus mature, tout simplement.
Et ça, ce n'est pas du tout de la maturité. Et donc, c'était un geste, c'était une punition, clairement.
Oui.
À cause de ces gestes-là.
Il faut se rappeler quand Tite arrive, il prend la sélection, enfin, il a mis dans les meilleures conditions Neymar. Accorder un crédit et une confiance, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Et je pense qu'il a, quand on connaît un petit peu cet homme-là, je pense qu'il a vraiment pas dû apprécier, d'une part, le coup aux supporters, mais toutes les petites polémiques qui vont autour.
C'est le chef de meute, c'est le père de famille, c'est.
Exactement, père de famille, c'est le bon moment pour le qualifier.
T'as fait une connerie, je te punis, quoi, tout simplement.
Et il faut savoir que Neymar, on entend beaucoup de choses très mauvaises de lui, bien sûr, mais beaucoup de son staff aussi.
Comment ils appellent déjà
ces amis là? Ousparsas.
Voilà, c'est ça.
Ousparsas.
C'est quoi, ça veut dire quoi ça?
C'est les potes. Les D'accord. potes.
La traduction littérale, c'est quoi déjà? C'était marrant.
Parceiro.
Voilà.
Parceiro. Et c'est vrai que Neymar, de l'autre côté, j'ai entendu, j'ai un ami qui est présentateur à, je sais pas si on peut dire les marques de télé américaines, Fox Sports au Brésil, qui est venu d'ailleurs interviewer, qui est venu interviewer Neymar avant la finale contre Rennes, et lui, il a toute une histoire en disant, c'est un gars gentil, quand j'avais mon gamin, il a pris à l'époque du Barça, visiter tous les joueurs, lui-même, il a pris les photos, etc. Mais derrière ça, il y a toute une famille et toute une façon de penser. Moi, j'ai entendu des gens proches de Neymar, des amis, que si Neymar n'a rien gagné avec la sélection brésilienne, hormis les Jeux Olympiques, c'est parce que finalement, c'est pas sa faute, c'est la faute de tous les autres. Il n'y a pas une génération.
Ouais, c'est la petite star et tous les gens autour de lui en font le cirque.
La faute est toujours des autres.
Et le papa, c'est quoi la relation avec le papa? Il le brosse dans le sens du poil ou c'est plus le papa intransigeant?
Je pense que c'est son mentor. Il a vraiment cette relation avec son père très très forte. Et je pense que tout ça vient un peu de son père.
Ouais.
Il y a eu une émission au Brésil de la Globo où il y avait le père de Neymar assis au bord de la table avec tous les journalistes de Globo qui lui posaient des questions. Il avait une excuse à tout. Tout. C'est jamais son fils qui a tort. C'est tous les...
et Stéphane, là, c'est con qu'il soit blessé parce que là, je pense qu'il avait la meilleure occasion de gagner enfin.
Je finis juste sur son père. Il a quand même mis un petit tacle à son fils sur l'histoire de viol présumé parce que il a dit attends là avec ce qui lui arrive, s'il comprend pas ce qu'il faut faire, moi j'abandonne, a dit son père. Donc
il a raison.
C'est la première fois que fermons la parenthèse Neymar pour parler du Brésil parce que tout de même. Ah déjà faut que tu nous rappelles. Tite, nous on dit Tite, mais toi tu dis
Tite.
Voilà Tite. Retiens bien, Tite. C'est un type qui est adoré au Brésil. Hein. Il est assez peu connu finalement en Europe, Tite. Les gens qui suivent le foot, de façon générale, je veux dire, les gens qui suivent After, ils le connaissent parce que tu suis le Brésil et tout, mais c'est un gars qui est une vraie référence au niveau coach au Brésil.
c'est pour moi le meilleur coach brésilien de l'actualité. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se demandent si jamais il perd cette compétition, est-ce qu'il se fait sortir ? Alors, la CBF a déjà dit que non. Après, si jamais il se fait perdre de façon honteuse, s'il se fait sortir de façon honteuse,
j'arrive pas. Par rapport à Zagallo, ça se situe où ?
Alors, Zagallo, c'est un personnage historique. Donc, c'est vrai que ces personnages historiques-là, avec Tele Santana, avec Zagallo, avec Zico, ils rentrent dans une autre sphère. Et Zagallo, bien sûr, il a gagné beaucoup de trophées avec la.
Il gagne quelque chose. Avec il a gagné comme joueur et comme coach, Zagallo.
Exactement.
La Coupe du Monde.
Il gagne quelque chose parce qu'en club, il a un bon palmarès, mais avec la sélection, pour l'instant, c'est rien.
Et en 97, quand il a gagné la Copa América, justement, Zagallo, c'est là où il est devenu très connu au Brésil, Zagallo, quand il a dit vous allez devoir m'avaler. C'était une expression. C'est Zonte qui m'ingouli. Et c'est comme ça qu'il est parti en Coupe du Monde en 98.
Genre, ça veut dire vous passez pas de moi, quoi, en fait.
Voilà, parce qu'il était très critiqué à l'époque. Et à ce moment-là, quand il a gagné la Coupe América.
Voilà. Pas mal comme expression, ça.
Nickel, ouais.
Deschamps, il aurait pu dire ça après la Coupe du Monde. Il s'est fait critiquer de partout. Il aurait pu dire, maintenant, les billets, voilà, c'est ça.
Tite, depuis qu'il est arrivé, quand il reprend la sélection, c'était un champ. Elle était en état de mort clinique, hein, après Dunga. Ils étaient mal engagés pour se qualifier pour la Coupe du Monde, même. Ouais. C'était vraiment atroce. Et puis là, depuis, il a 32 matchs. Il a perdu deux fois. Une fois contre l'Argentine, un match amical bidon. Ça se jouait en Australie, je crois.
Exactement.
Il perd 1-0, c'est un match. Et la deuxième défaite, c'est contre la Belgique en Coupe du Monde. Sinon, il a quasiment que des victoires. Il doit avoir
27
matchs nuls.
27 victoires, 5 matchs nuls.
C'est 26 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites.
Ça, avec les derniers matchs, ça a augmenté. Ouais. 34 matchs, 27.
Bah, t'imagines le bilan. Et surtout, tu vas nous en parler, mais il a donné un style de jeu à cette équipe. Vraiment, c'est ça.
Il a fait éclore des jeunes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attendait. Maintenant, on l'attend un peu aussi maintenant au tournant. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensaient qu'il allait y avoir un vrai renouveau pour cette sélection pour la Coupe América. Il a préféré garder son noyau dur.
Il y a des jeunes quand même un petit peu.
Il y a des nouveaux jeunes.
Arthur, Paqueta, Richarlison.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais il y a quand même 13 joueurs qu'il a gardés de la Coupe du Monde. Il a opté pour ne pas prendre Vinicius Junior à la place de... Il a préféré Willian.
Willian, ça fait débat parce que Willian, il joue plus en club.
Exactement. Et c'est un vrai débat. Beaucoup de gens disaient que Vinicius Junior, même s'il a joué moins de fois parce qu'il était blessé, statistiquement, il a plus de...
Il est, dans le terme de profil, il y a peut-être déjà des joueurs comme ça. Tu vois ?
Oui, mais ce qu'on attend, c'est peut-être des joueurs qui, en 2022, n'auront pas 34, 35, 36.
Mais Stéphane, là, l'objectif du Brésil, clairement, c'est de gagner. Donc, je pense qu'il a voulu privilégier, tu vois, de se donner une option tactique en plus, parce que des joueurs dans le style de Vinicius, t'en as quand même pas mal. Et je te trouve un peu dur, parce que quand tu regardes la liste, il y a quand même pas mal de jeunes, et même dans le 11 de départ, Arthur est titulaire maintenant, par exemple. Richarlison, je pense qu'il va commencer tous les matchs aussi. Neres, pareil.
Alan, je dis pas le contraire.
Alan, il sera remplaçant, non?
Oui, mais pour l'instant, je pense que c'est lui qui va rentrer à la place d'Arthur.
Moi, j'aimerais revenir un peu plus en amont de tout ça, et moi je me rappelle, enfin, quand on évoquait le Brésil, je pense moi mon premier rapport avec l'équipe du Brésil, c'est 94, donc Bebeto, Romario, cette Coupe du Monde aux États-Unis, s'ensuit la Coupe du Monde 98 où même s'ils sont pas champions du monde, il y a quand même une espèce de ferveur autour du Brésil, c'est tout le monde regarde le Brésil avec des yeux d'amour, et j'ai eu l'impression qu'après cette génération, l'arrivée, alors ça c'est un peu je voulais pas dire effrité, liquéfié, mais j'ai pas l'impression que la génération Neymar, Oscar, tout ça a réussi à combler le vide de cette ancienne génération qui sont les héritiers d'une génération encore meilleure avant, hein, avec les Zico et compagnie, hein, mais je sais pas, aujourd'hui, est-ce que c'est cette Coupe du Monde et ce raté à domicile qui fait qu'on, le Brésil, je sais pas, il y a moins de...
Il manque toujours, c'est vrai que...
On a moins de frissons quand on regarde le Brésil
Je suis pas sûr que l'ancien football, le Joga Bonito, aujourd'hui, puisse aller loin. Et c'est pour ça que finalement, quand Tite est arrivé, avec cette idée d'un football plus à l'européenne, avec...
Quand même offensif.
offensive, mais vraiment box to box, c'est-à-dire que tout le monde défend, tout le monde attaque, etc.
Comme il est très renforcé. Mon propos, c'est quel est le lien aujourd'hui, tu vois, moi je regarde en tant que supporter, quel est le lien, quel était le lien à l'époque et maintenant entre les supporters et cette équipe du Brésil? Ils ont pardonné le fameux crash 7-1 contre l'Allemagne.
Il y a aussi d'autres facteurs. Quand on regarde avec l'arrivée, et justement quand on parlait de cette génération, on s'aperçoit que c'est la génération réseaux sociaux. Ils sont arrivés avec les réseaux sociaux.
C'est très juste comme remarque, ouais.
Et avec les réseaux sociaux, c'est aussi le côté bling-bling. Et toute la population brésilienne qui regarde ce côté bling-bling, finalement, à un moment donné, tu te dis...
C'est un pays qui est quand même très inégalitaire. Il y a des gens très, 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 très riches et des gens très, 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 très pauvres dans des grandes proportions comparé à ce qu'on peut avoir en Europe.
Donc, tu dis que la situation politique et sociétale a contribué à créer une certaine fracture ou éloignement entre le Brésil et ses
l'équipe du Brésil. Il faut dire la vérité. À part Neymar, et puis je vous rappelle juste que la Coupe du Monde 2014, l'avancement, c'était Fred. Il y a eu un creux générationnel de joueurs offensifs qui a été énorme.
C'est ce que je t'explique.
Et même là, les joueurs qu'il y a, je pense que le Brésil est favori parce qu'ils ont un collectif qui est supérieur aux autres équipes du continent, mais à part Neymar, c'est pas des superstars non plus. Et c'est ça, le Brésil dont tu parles, c'était une équipe qui était remplie de superstars à tous les postes. Là,
dans quelques instants, on continue le débat. On va vous raconter encore 2-3 petites histoires, notamment pourquoi le Brésil va rejouer avec un maillot blanc, alors qu'on avait plutôt l'habitude, évidemment, de les voir en jaune. Hein. C'est le maillot emblématique du Brésil. Bien sûr, les autres sélections. On va parler des stars de cette Copa América. 32-16, bien sûr, si vous avez une question sur le foot brésilien à poser à Stéphane Rosenbaum. Il est là. Mais alors, attention, c'est quoi ton club déjà ?
Palmeiras.
Voilà, club de Sao Paulo, qui joue en vert. Ah oui, c'est important. Allez, on se retrouve tout de suite dans l'after pour continuer de parler de la Copa América sur RMC.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Ludovic Obraniak est là, Jonathan McCarthy est là, on parle de la Copa América avec Stéphane Rosenbaum. Il est journaliste brésilien, il est à Paris, il connaît tout ça par cœur, bien sûr. Alors, raconte-nous pourquoi le Brésil va ressortir son maillot blanc maudit.
Oui, maudit à partir de 1950, mais avant ça, c'était le maillot de la sélection brésilienne.
Il jouait jamais en jaune avant, en fait.
Non, le jaune n'existait pas. On jouait que en blanc avec
le col
bleu. Et c'est ce maillot-là qui va être ressorti. C'est pas la première fois. On l'a ressorti en 2004. Souvenez-vous,
le jeu contre la France.
Oui, exactement. Oui. C'était le
centenaire. C'est le jour où Bernard Mendy a mis 20 mètres à Roberto Carlos.
Exactement. <C'est vrai. rire> Et donc, on va le ressortir parce que donc 2019, donc le Brésil qui a fait sa Copa América qui à l'époque s'appelait Campeonato Sul-Americano, c'était pas le même nom. Et c'est vrai, en 1950, la défaite pour l'Uruguay au Maracanã
en finale de la Coupe du Monde.
En finale de la Coupe du Monde a fait que on a dit plus jamais en blanc. Et c'est là qu'on a cherché à mettre le maillot bleu, jaune. Et le bleu arrive en 1958. En Suède, quand le Brésil devait tout d'un coup, à la dernière minute, changer de maillot parce que l'autre équipe allait jouer en jaune, et ils ont trouvé à l'arrache un truc qui vendait des maillots bleus, et ils ont joué en maillot bleu. C'est comme ça qu'on a eu le deuxième maillot bleu et le titulaire jaune.
Bon voilà, et du coup là, on va essayer de briser la malédiction en rejouant en blanc. Petite parenthèse, parce que tout à l'heure, on a vu les Brésiliennes face aux Australiennes, elles ont perdu. On suit la Coupe du Monde féminine ou pas trop d'impact ?
J'imagine que si la Copa, il n'y a pas d'engouement, la Coupe du Monde féminine, si.
Alors il faut savoir que pour la première fois de l'histoire du football féminin au Brésil, la première chaîne brésilienne, la Globo, a décidé de passer tous les matchs dans la chaîne ouverte. Et c'est une première.
Globo, c'est gratuit.
Globo, c'est gratuit. Et c'est vraiment une première d'avoir les matchs. Alors,
Globo, c'est le TF1 brésilien, en fait.
Voilà. Et ils ont des chaînes câblées, et notamment une chaîne de sport qui s'appelle Sport TV. Et c'est la première fois que ces matchs-là sont sortis du câblé du payant et qui sont partis à la télévision gratuite. Et avec des bons numéros, des bons scores, comme ici pour la France, avec presque 11 millions le premier match.
Rappelons quand même que Marquinhos, bien sûr, est dans la sélection. Thiago Silva est dans la sélection. Et on rappelle quand même que le Brésil, bon, ils ont gagné les Jeux Olympiques en 2016. Pas rien, les Jeux Olympiques, c'est pas anecdotique. Enfin, un grand titre, ça commence à dater, hein.
Oui, ça fait mal.
Tu fais la moue.
J'étais en terminale.
C'était quelle année ?
C'était 2002, avec la Coupe du Monde avec Scolari.
Rien depuis 2002, sauf les Jeux Olympiques.
Voilà, sauf les Jeux Olympiques. Après, c'est la débâcle. C'est là aussi très, très douloureux. J'étais au Stade Charletti pour voir la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Mais moi, j'ai vu le match contre la France. Au Stade Charletti, j'ai failli me prendre une bouteille de...
J'avais ah oui, tu devais avoir un écran géant pour...
Oui, exactement. Et là, on a appelé Zidane de le Brésilien. Ce jour-là, c'était le Brésilien parce que c'était fou comment il a joué en 2006. Mais voilà, ça date, ça date.
Alors, il n'y a pas que le Brésil dans la vie, hein, même si c'était avec nous. Demain soir, on a prévu un programme. Hein, demain soir, on va parler des sélections, on va parler de l'Argentine. Demain, on va parler de l'Uruguay, les principaux favoris.
Venezuela aussi.
Ah, tu veux parler de la Vino Tinto?
Oui, de l'outsider, de la nation qui monte.
Ah, le Venezuela, c'était les mecs les plus bidons d'Amérique du Sud pendant des années. Et là, tout à coup, ils deviennent bons.
Ah, bien. Ils ont fait une finale en 2017 de Coupe du Monde, U20. Ils ont un super réservoir de jeunes. Et je pense que c'est une équipe à suivre. Il faudra bien la suivre, là.
Ah, juste, je précise quand même qu'à la Copa América, donc il y a trois groupes de quatre. Sauf que ça fait pas assez de pays. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On invite les équipes de l'extérieur. Excuse-moi, mais moi je trouve un peu grotesque d'avoir le Japon et le Qatar à la Copa
América. Non, mais surtout le Japon qu'envoie son équipe B. C'est encore plus grotesque.
À ce moment-là, prends-moi le Panama ou
même le Mexique, c'est bien.
Le Mexique, d'accord.
Le Mexique, c'est très bien. Le Mexique, c'est un candidat naturel pour jouer, pour faire la compétition. Ouais. Bon, après, c'est des questions qui nous dépassent, je pense.
Ah, attends,
dire ça comme ça, parce que
justement, Jamil, il veut parler de ça au 32-16, là, de cette histoire, parce que ça, c'est pour le pognon qu'on invite le Qatar et la Chine. Enfin, c'est pour quelle raison?
Alors, moi, j'ai pas une réponse comme ça. Moi, j'imagine que c'est ça.
C'est pour deux choses. C'est pour l'argent et c'est pour des échanges de services après entre fédérations. Avec le Qatar, ça semble assez évident, hein. Pourquoi?
Parce que le Qatar a payé pour venir jouer à la Coupe d'Amérique.
Il va payer et puis il va avoir la Coupe du Monde, etc. Il y a des échanges de bons procédés entre fédérations.
On appelle ça politicaging en portugais.
C'est encore mieux quand tu le dis comme ça. C'est des choses qui sont parfois un petit peu opaques. Mais par contre, c'est totalement débile, par exemple, d'inviter le Japon qui envoie son équipe B et qui n'envoie pas le meilleur latéral droit du monde en la personne d'Hiroki Sakai.
Non. Détends-toi. Salut Hamid.
Salut Hamid.
Ouais, salut Gilbert, salut Jonathan, salut Ludo, salut notre correspondant brésilien qui est sur place.
Non, il est là, on le voit, on peut le toucher même.
Ouais. Donc moi en fait, je voulais intervenir par rapport à la Copa América. Bon, en fait, ces compétitions qui sont les compétitions continentales en dehors de la zone Europe, notamment je fais un parallèle aussi avec la CAN parce que c'est un petit peu le même bordel. C'est pas possible en fait, tout simplement. C'est pas possible de voir des compétitions un an après la Coupe du Monde. Ça l'affaiblit. Ça fait que bah franchement, ça donne pas beaucoup d'engouement. Et puis bah ça fait baisser le niveau. On voit comment des équipes sud-américaines qui sont battues contre les équipes européennes en 2018, elles remettent le tablier en 2019.
C'est tu te trompes, Amine.
C'est juste pas faisable.
Amine, tu te trompes.
T'es pas d'accord, Jonathan?
Je vais t'expliquer pourquoi tu te trompes.
Vas-y.
Tu ne prends pas en compte, tu ne mets pas dans la peau d'une part des joueurs qui jouent cette compétition-là et surtout de la population locale. Tu te mets pas dans la peau de quelqu'un qui vit sur le continent. Et c'est une compétition qui est hyper importante pour les supporters des sélections qui sont concernées. Regarde un petit peu, par exemple, l'impact qu'a eu la double victoire du Chili dans la Copa América. Et dans la Copa América Centenario, ça a redonné une fierté de malade mentale aux Chiliens, au sport chilien. Regarde le traumatisme ça a été vécu comme un traumatisme, le traumatisme qu'ont vécu les Argentins de perdre les deux finales d'affilée en Copa América. C'est une compétition qui a beaucoup d'enjeux.
Ça aurait peut-être plus bénéfique de le faire dans deux ans.
Mais dans deux ans, l'année prochaine, il y en a une aussi.
C'est ça le problème. Amid a raison sur un point. La Copa América, c'est juste, on fait trop de business. Ça me fatigue.
Exactement.
Ils en ont fait une en 2015. Ils en ont fait une en 2016. On dit,
mais
c'était le centenaire. En fait, c'est pour le pognon. Là, ils en font une en 2019. Hop, ils en font une en 2020. C'est pas pour
c'est ça. Il faut que ça soit. Il faut que ça soit fixe.
2019 et faire.
Non, en fait, le seul problème, c'est qu'il faut que ça soit fixe.
Tous les 4 ans, comme l'euro. Exactement. Arrêtez de nous vendre les trucs.
Gilbert, voilà, t'as raison. Moi, ce que je dis, je propose un truc qui est très simple. L'année de la Coupe du Monde, il y a la Coupe du Monde. L'année de l'euro, on trouve la place pour faire la CAN. Et la Copa América.
Exactement.
C'est clair, net et précis.
Eh oui, mais la CAN, tous les deux ans, on fait tourner le business et la Copa América.
Voilà. Mais c'est comme la CAN. La CAN, tous les deux ans, ça veut dire quoi, ça? La CAN, tous les deux ans.
Sur ce point-là, Amine, t'as raison.
Déjà, ça progresse, maintenant, c'est en juin. Avant, c'était tous les deux ans.
Oui, voilà. Ils ont fait cet effort-là de le mettre l'été. Bon, on va dire, moi, personnellement, et puis la Copa América, en plus de ça, La Copa América, je suis désolé, ça doit être de l'Alaska jusqu'à Terre de Feu. Ça doit être tout le continent américain. Et sinon, ils feraient pas trois poules merdiques avec le Japon et le Qatar. C'est n'importe quoi. Moi, personnellement, je regarde pas.
Bah, c'est parce que c'est la CONCACAF, la régulière, tu sais bien, c'est pas la même confédération.
C'est pas la CONCACAF, mais bon. Ouais. Mais il y a aussi un.
Mais c'est vrai, mais c'est
une bonne proposition.
Je suis d'accord avec toi.
Il faudrait qu'il y ait les États-Unis, il faudrait qu'il y ait bien sûr.
Oui, mais ça veut dire dans ces cas-là qu'il faut des préliminaires. Parce que si tu fais jouer tout le monde avec tous les pays de l'Amérique centrale et tout, plus les Antilles.
Il y a la place dans le calendrier. Franchement.
Mais il y a pas, et je pense qu'il y a un autre facteur aussi pour le manque de le désintéressement, notamment au Brésil. Ce que je sens, et c'est que les gens ont de plus en plus accès au football européen sur les chaînes de télé, au championnat européen, à Champions League. Et quand ils vont voir une affiche Japon, Bolivie, ils font automatiquement la comparaison. Automatiquement et notamment quand ils font la comparaison de Liberté Dorés avec
la Champions League. La vérité, c'est aussi le fait que quand il y a la Copa América qui tombe là dans cette période d'année, t'es en pleine Copa Libertadores aussi.
Oui,
ça aide pas du tout, quoi.
Voilà,
ça aide pas.
En plus,
il faut pas oublier le calendrier du foot sud-américain.
Et le clubisme dans les pays sud-américains sera toujours supérieur.
Nous, on pleure parce qu'on joue tous les trois jours. Mais eux, c'est des grands malades. Parce qu'au Brésil, là, alors ils te font le championnat de la province. Après, ils te font le championnat national. Au milieu, ils te font la coupe par aller-retour. après, au milieu, puis il y a le championnat, ils sont, je sais pas combien.
Et puis t'as la Libertadores, qui est un long marathon.
T'as les coupes, t'as les coupes sud-américaines, de clubs.
Et le public ne suit pas. Les stades, notamment maintenant, ils ont vendu que 65% des billets.
Ah ouais, donc
un tiers des biens n'a pas été vendu.
Après, ça, c'est un problème qui est vraiment brésilien, je pense.
Et c'est cher ?
C'est cher. Donc, le moins cher en reais, c'est la monnaie locale. Alors, il faut savoir pour comparaison, pour base de comparaison, que le salaire minimum est à peu près 1000 reais, presque 1000 reais. Et le moins cher, c'est 120 reais.
C'est
dans la première phase. Après, ça augmente le moins cher à 290 reais. Et là, par exemple, je pense que c'est Japon, Équateur.
Oui.
Si je me trompe pas, il y a que 1500 billets vendus pour l'instant.
C'est tout à fait normal. C'est logique.
Mais c'est normal. Qui a envie de voir Brésil, Japon en Copa América? Moi, si je vais à Tokyo, je vais à Tokyo. Si je vais à Sao Paulo, je vais à Sao Paulo.
Le niveau des matchs est trop inégal. Tu vas faire un Japon Équateur et tu vas après. Il y a quand même un Colombie Argentine. Il y a trop de disparités dans les affiches.
Donc, hormis les trois sélections, l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil, les gens n'ont pas beaucoup l'intérêt d'aller voir les matchs en ce moment. Et même pour le Brésil, le match que le Brésil a fait contre le Honduras, au Bellario, il y a eu 16 500 personnes. C'est le niveau de public le plus bas.
Le championnat, la Libertadores remplit plus.
Oui.
Mais franchement, Jonathan, tu penses vraiment les joueurs des grandes équipes, des trois grandes nations phares, Brésil, Argentine, et puis on peut dire Uruguay ou Chili, peu importe. Franchement, ils n'auraient pas beaucoup plus de motivation si ça serait vraiment tous les 4 ans.
Amine, là-dessus, je peux te rejoindre. Après, moi, si tu analyses juste conjoncturellement, ce que je peux te dire, c'est que, par exemple, tu as parlé d'Argentine, ils arrivent le couteau entre les dents.
Me signale parce que là il y a quelques Martiniquais qui se réveillent là et qui nous disent nous on n'est pas à la Copa América parce qu'on joue la Gold Cup. Eh oui, la Martinique joue la Gold Cup, ça commence
dans quelques jours d'ailleurs. Il y a la zone Amérique CONCACAF, je sais pas quoi. Non, je suis désolé, Copa América partir de l'Alaska jusqu'en Argentine.
Ça c'est une bonne idée, Amine.
On fait 4 poules, 4 équipes.
Nous retenons cette proposition. On va l'envoyer comme des balles.
Donc t'intègres quoi? Canada, Mexique, États-Unis.
Oui, mais ça veut dire qu'il faut les autres, il faut qu'ils puissent aussi prétendre y être. Tous les pays centra-américains, le Guatemala et compagnie. Et puis les Cuba, toutes les îles de la Caraïbe là. Ouais. Donc il faut les éliminatoires dans ce cas-là.
Ouais. Mais il y a la place dans le calendrier. Tous les matchs.
Comme Conmebol qui est rebaptisé par certains en Amérique du Sud la Corrup Bowl. c'est quelques histoires.
Vous savez, et encore, on parle pas forcément du football de club, mais il y a des histoires.
Demain, on parlera spécifiquement du Chili aussi, qui est le double tenant du titre.
Oui, qui va pas bien.
Mais toi, Jonathan, juste, tu voulais nous faire un petit tour d'horizon parce que tu dis que c'est pour certaines grandes stars sud-américaines la dernière occasion de gagner un titre.
Tu regardes par sélection les stars principales. Messi, Kun Agüero.
Il n'a jamais rien gagné avec l'Argentine.
Voilà. Di Maria, tu regardes en Colombie, l'âge de Radamel Falcao. Tu regardes au Chili, la génération dorée que Marcelo Bielsa a fait naître et que Sampaoli a fait gagner avec Arturo Vidal, Gary Medel, Alexis Sanchez.
C'est leur dernière grosse compète.
Pour beaucoup, pour toutes les stars, en fait. Allez, il y aura peut-être celle de l'année prochaine. Mmh. Mais là, ça semble être une des dernières chances pour gagner quelque chose en sélection. Et du coup, même si, Amine avait raison, le calendrier, le Japon, le Qatar, la présence du Japon et du Qatar, il y a quand même un intérêt pour ces sélections-là. Et les grosses sélections Deschamps arrive mais vraiment archi motivé pour gagner. Mais Falcao, il est remonté à 10 000 là pour gagner
Falcao,
sa Copa América.
Il est un peu ennuyé toute l'année
il te dit Stéphane que c'est au Brésil, c'est pas l'engouement pour cette Copa América. C'est la même chose ailleurs ou
c'est compliqué? Parce que oui, par exemple, on va prendre le cas de l'Argentine. En Argentine, les gens, c'est la crise, d'accord. Mais il y a surtout, on est en pleine Copa Libertadores, et c'est ça qui intéresse les gens. C'est très important le football de sélection en Amérique latine, mais c'est avant
tout des pays. La Copa Libertadores, ça reprend évidemment après la Copa América.
Mais hein, ça vient de s'arrêter. Mais ça, c'est surtout
donc en gros, fin juillet, quoi.
C'est des pays où le clubisme est supérieur à ce que tu peux avoir comme sentiment vis-à-vis de ta sélection.
Ils viennent à peine d'arrêter, ils refont la Copa.
Oui, après, on va pas se mentir, hein, la majorité des joueurs évoluent quand même en Europe maintenant.
Attends, moi j'ai les souvenirs de Coupe du Monde. Nous, on était à Rio. Je peux te dire que les supporters argentins, ils étaient absolument ravis de se pointer au Brésil pour essayer de sortir les Brésiliens, tu vois. Alors voilà, parce que t'as quand même des rivalités locales.
Je t'ai pas dit qu'ils s'en foutaient de la sélection, Gilbert. Ouais. Je te dis juste que alors on va dire ça. Les Argentins, les Sud-Américains sont archi passionnés pour leur sélection, mais sont totalement barjots pour leur club. La différence, elle est là.
Amine, merci. J'ai un petit cadeau pour toi, Amine.
Ouais. C'est quoi?
Un DVD, La Mule, excellent film de Clint Eastwood.
Ah, c'est cool. Oui, j'ai vu au cinéma, il est pas mal. Ouais.
Bah, tu pourras l'offrir. C'est avec Paul Lann aussi, La Mule.
Ouais, c'est en quoi? En DVD?
Ouais. T'en veux un?
Je voulais juste passer un petit message.
J'ai plus de lecteur DVD, moi, ça n'existe plus, ça.
Bah si.
Je voulais juste passer un petit message.
Vas-y, Amid.
Voilà. Franchement, je suis fan de Daniel Riolo, j'aime beaucoup ses analyses. Tout le monde, je trouve que tout le monde est critique à tort. On le fait passer soit pour un bouffon, soit pour un mec qui connaît rien, ou soit pour un pseudo-raciste. Il aurait la haine contre tel ou tel joueur en fonction de leurs origines. Franchement, tout ce qu'il dit sur le football, je suis à 98% d'accord avec lui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contexte social qu'on doit mettre par rapport aux résultats du club français. Il y a une culture française qui pourrit de l'intérieur tout un tas de choses qui fait qu'on est médiocre au niveau européen. Il y a une rigueur qu'on n'a pas, qu'on n'aura jamais. Voilà, on le voit bien quand on se balade en France ou quand on va dans d'autres pays. C'est un peu lié et je trouve qu'il a raison sur 98% de ce qu'il avance. Voilà.
Donc, bah, écoute,
il a décrit à tort et le message est passé. J'aurai le plaisir de lui dire en direct.
Il t'écoute sûrement.
Exactement.
J'espère, ouais.
Et il sera là la semaine prochaine, bien sûr. Salut, Amine.
Amine, ça aussi.
Ou alors, il joue au poker, là. Ouais. Je connais mon Daniel.
Il écoute le podcast, le lendemain et après, il envoie des messages.
Stéphane, merci en tout cas. Tu nous as même pas parlé des Volanches aujourd'hui.
Les Volanches et le stade de Morumbi qui va recevoir le premier match. Et la chance d'avoir une Bolivie dans le premier match. Un match assez facile pour le Brésil.
Ah ouais, parce que la Bolivie, c'est archi
faible. C'est 4-5-0.
Et les supporters de São Paulo sont assez critiques. Donc ils ont la chance d'avoir un. Ouais, j'ai un souvenir au Morumbi dans l'année 2000, Brésil-Colombie, où le Brésil fait un but à la dernière minute avec Roque Junior. J'avais 15 ans, on avait reçu des petits drapeaux brésiliens. Mais c'était incroyable l'image des centaines de milliers de drapeaux qui tombaient sur le terrain, les gens qui jetaient les petits drapeaux.
Genre vous êtes nuls quoi.
Voilà, c'est fou. Donc, heureusement ils ont une Bolivie pour le premier match. Ouais.
Merci Stéphane. Bonne soirée. Dans quelques instants nous tout le reste de l'actu du jour et puis le retour des équipes type équipe pip ce soir, c'est le Bayern Munich. Ah, peut-être du brésilien. On va voir dans quelques instants.
Ah oui, Giovanni.
RMC. L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Ludovico Bragna qui est là, Jonathan McCarty. Dans quelques instants, on accueille David Lortolu. J'ai quelques infos à vous donner avant. Que je n'ai pas donné encore. Vous dire que hier, la Coupe de France féminine a encore cartonné à la télé. Vendredi dernier, pour le match d'ouverture, c'était 9,8 millions de téléspectateurs. Hier, c'était 9,4. Donc, on reste sur les mêmes bases. Hein. C'est pas mal. Et donc, prochain match, lundi prochain, face au Nigeria. Et elles sont qualifiées, je le rappelle, depuis ce soir. Petite info mercato, Monaco qui veut vendre. Hein, là, c'est débarrassé aujourd'hui de Pierre Gabriel, le défenseur. Il signe à Mayence, le club allemand. Les clubs allemands, comme disait Loïc.
Pas mauvais en plus, Pierre Gabriel. Hein.
Qui s'intéresse beaucoup aux jeunes joueurs français. À Amiens, on parle d'un duo Duprat-Tancho pour remplacer Pélissier.
Mais on n'a rien contre Pascal Dupraz. Ok, il faut bien que ce soit clair parce que. Bon, après,
quand tu commences comme ça, c'est que tu vas
dire. Comment tu peux passer avec la gestion de ce cas-là qui a été désastreuse, comment tu peux passer d'un entraîneur aussi brillant que Christophe Pélissier à Pascal Dupraz? Quelle est la continuité de ton projet sportif?
C'est peut-être un autre projet, comme on dit maintenant.
Ouais, mais je suis désolé, vu le boulot qu'a fait Pélissier et les joueurs qu'il y a, parce qu'il y a des sacrés bons joueurs de ballon à Amiens, même si ils ont connu une saison difficile. Du côté, le secteur offensif est bien fourni. Moi, je sais pas, prends un entraîneur qui soit dans la continuité, un petit peu dans le même style, qui va bien. Mais non, Dupraz, ça n'a rien à voir. Moi, je comprends pas. C'est un choix qui est vraiment. Et je salue Jean-Marc de la Maison du Whisky, qui doit être bien triste de cette nouvelle, lui qui va au stade pour tous les matchs à domicile d'Amiens.
Lyon, ça bouge à Lyon. Il recrute Tatarusanu. Alors pour être a priori deuxième, hein, mais bon, il est vrai qu'ils avaient un deuxième Gorgelin qui n'était pas
il a re-signé. Au niveau,
je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il a re-signé Anthony Lopez ?
Ah non, toujours pas. Ah
voilà. Mais peut-être, je dirais pas au niveau, mais peut-être trop d'écart avec le numéro 1.
Voilà.
Mais Anthony Lopez n'a
plus de diplomatie.
Anthony Lopez n'a toujours pas re-signé. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. C'est bizarre hein, cette situation-là.
Et puis le jeune luxembourgeois Martin Pereira, qui appartient à Lyon, a été définitivement transféré aux Young Boys de Berne pour 2 millions. Voilà. Je vous le signale aussi à l'OL. Reynald Pedros n'est plus le coach des féminines de Lyon. Là aussi, communiqué du jour.
Et pour Jonathan, l'OM n'a pas signé un joueur de Ligue 2 encore ou...
Non, pas encore.
Pas bon, encore.
Arrête-toi. Sérieusement.
Autre info liée à la CAN. Andy Delors. Hier, je vous ai raconté Belkebla, donc ouais. Exclu pour montrage de fesses sur les réseaux sociaux.
Et le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Et ben, c'est Andy Delors. Les gars, voilà, ça y est, il est au Qatar. Il a rejoint l'équipe en préparation. Donc Andy Delors va jouer la CAN.
Bon, il en crevait d'envie. Après, on peut discuter de voilà de l'opportunité. Est-ce que c'est mais c'est très bien pour lui en tout cas.
Moi, je trouve ça bien. S'il a envie, voilà. Il a tweeté Choukran. C'est vrai. Et puis Metz recrute un jeune joueur d'Ajaccio de la CA, Manuel Sabi, qui rejoint Metz pour 3 ans. Faut suivre Metz de près parce que Ludo après il va râler. Voilà.
Non, mais ils ont fait 100, je sais pas comment on dit, Santon.
111.
111.
Le joueur de Lens
qui est un bon latéral.
Voilà, et puis Jordan Ferry devrait s'engager avec Montpellier également dans les heures qui viennent, passer de Nîmes à Montpellier.
C'est les supporters nîmois qui doivent être contents.
Ouais, ouais. Et surtout si Savagnier fait la même chose dans quelques jours, allez savoir. Bref.
T'imagines, il leur dépouille leur milieu quoi.
Attention, David. Ah non, attends, dernière histoire. Quand même, avant David Lorto. On a reçu l'autre jour l'avocat de l'Espérance Tunis pour la fameuse histoire de la Ligue des Champions africaine. Aujourd'hui, le Wydad Casablanca contre-attaque. Alors, le match va être rejoué, la demi-finale retour, mais là, le Wydad dit non, nous, on veut pas rejouer, nous, on veut la coupe directement. Alors qu'à la base, c'est quand même l'Espérance qui l'a gagné. Et ils disent, nous, on est la victime de cette affaire, donc c'est la seule façon de nous rendre justice, filez-nous la coupe. Et
ça, c'est petit comme attitude. Ouais. Très franchement, c'est naze.
Bon, le feuilleton continue.
Un vaincre sans péril, hein. Enfin, je vais pas la faire en entier, mais non, c'est nul.
David Lorto, bonsoir.
Allô, Freunde, salut Gilbert, salut à tous.
Salut David.
Attention,
salut
David a bossé parce que le 11 type et le 11 pipe du Real, du Bayern, pardon, du Real, on l'a déjà fait. Là, il faut pas te tromper, mon petit gars.
Là, il y a du monde, hein, David.
Il y a du monde au balcon, exactement. On va démarrer par ton 11 type de l'histoire du Real Madrid. Attention, tu es sur écoute
du Bayern.
Mais pourquoi je dis le Real chaque fois? Du Bayern Munich.
Fred Armel est hypnotisé.
Ouais, j'ai Fred dans ma tête. Du Bayern Munich, et attention, tous les fans du Bayern t'écoutent. Lorto, c'est à toi.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a énormément de colosses hein, dans l'histoire du Bayern. Ah oui. Et le premier d'entre eux, c'est le choix du gardien de but.
Ouais, et c'est finalement, pas dur.
Bah oui, parce que Sepp Maier, je crois que de mémoire, c'est 473 matchs consécutifs en Bundesliga. Donc rien que ça, le gars est encore appelé par tous les médias. Il a le droit à ses expos temporaires au musée du Bayern. Enfin, c'est la légende des légendes. Il y a Schinn et puis il y a Sepp Maier. Effectivement, Oliver Kahn aurait pu aussi, mais malheureusement, il y a encore plus fort au-dessus de lui, à mon sens. Plus légendaire encore.
Bon, là,
une défense à 4.
Ah, vas-y.
Une défense à 4. À droite, Philipp Lahm. Au début de sa carrière, on se demandait si ce petit bonhomme d'1m60 ou et quelques pouvait s'imposer au plus haut niveau. Je crois que Philipp Lahm, il n'y aura pas beaucoup de discussions sur ce joueur-là. Parce que c'est beaucoup plus qu'un arrière-droit. Ça a été un milieu de terrain aussi. C'est un joueur très intelligent. Souvenez-vous de la phrase de Pep Guardiola. Peut-être le plus intelligent que j'ai eu à diriger. Donc je crois que Philipp Lahm, arrière-droit, c'est pas mal. Et de l'autre côté, arrière-gauche, bah, c'est une autre légende. C'est Paul Breitner, lui aussi, très intelligent, parce qu'il a dépassé le cadre du foot. Il y avait sa dégaine, il y avait sa chevelure, mais il y avait aussi ses engagements politiques. Et dans un style complètement différent, je crois qu'on a là deux arrières latéraux. Oui.
Il était maoïste, Breitner, entre autres.
Défense centrale, Beckenbauer est considéré au Bayern comme le plus grand joueur de l'histoire du club. Donc je vois pas trop comment on pourrait ne pas mettre Beckenbauer. En plus, il a un palmarès en équipe nationale assez incroyable. Et puis à côté de lui, un homme qui fait peur, hein, si vous regardez les photos, Hans-Georg Schwarzenbeck, 20 ans d'affilée au Bayern. je crois que cette défense-là, ils ont joué évidemment ensemble. Lui, c'était 1960, 1980 ou 1961, 1981. 20 ans au Bayern, 400 matchs aussi. Il a été international 45 fois, je crois. Donc ces deux-là, alors bien sûr, on peut me parler d'Hummels, on peut me parler de joueurs plus récents, mais je crois que ces deux-là sont assez indéboulonnables. 4 milieux de terrain. Alors là, ça se discute peut-être un peu plus. Franck Ribéry à gauche.
Attends, moi,
ça me plaît beaucoup, Franck Ribéry.
Alors Ribéry, parce qu'on l'a pas énormément souligné d'ailleurs quand il est arrêté.
Oui.
Rappelle-nous son nombre de titres de champion.
Eh ben, il est le seul à en avoir 9.
Voilà.
Puisque Mehmet Scholl, que je mets à droite, et ça va faire hurler les fans d'Ariane Robben, mais pour moi, Mehmet Scholl, c'est la légende aussi, le numéro 7 qui a précédé Franck Ribéry. Ribéry est le seul à avoir 9 titres. Des gens comme Kahn, comme Scholl, comme Lahm, comme Schweinsteiger n'ont eu que 8 titres, entre guillemets, que 8 titres. Et puis au milieu de terrain, c'est ma génération, et moi j'ai une tendresse au milieu de terrain axial pour ces deux-là, Lothar Matthäus, 150 sélections.
Normal, ouais. Mais l'autre, Effenberg,
il a
pas joué tant que ça.
Matthäus,
ça se discute pas avec Schweini,
ouais,
quand même.
Ça se discute. Hein.
Bien sûr que ça se discute avec Schweini, mais pour moi Effenberg est l'homme qui a symbolisé le titre en 2001, le titre de Ligue des Champions en 2001,
oui.
Alors que le Bayern attendait depuis 1976. De remporter à nouveau cette Coupe des clubs champions, Ligue des champions après. Et Effenberg, c'était le guerrier. Il est très comparable, à mon avis, dans son attitude à Schweinsteiger. On peut jouer entre les deux pour ces deux-là. Et si on fait une compo en 4-4-2, devant, ils sont trois pour deux places. Gerd Müller, Rummenigge, j'ai choisi ces deux-là, ou éventuellement Uli Hoeneß aussi. Mais je crois que Gerd Müller, ça se discutera par personne.
Rummenigge non plus.
68 buts en 61 sélections.
Mais t'aurais pu sortir Scholl et jouer en 4-3-3, puis tu mettais Uli Hoeneß.
Oui, mais Mehmet Scholl, ça pèse lourd. Gilbert en Allemagne, pour moi, c'est vraiment. Et il est encore dans toutes les publicités aujourd'hui.
C'est Effenberg à la rigueur que je peux sortir.
Ou tu
parce
éventuellement
parce qu'il a joué aussi beaucoup. Moi, par rapport à Schweini, il a beaucoup joué dans d'autres clubs en Allemagne aussi. Il a joué au Mönchengladbach. Tandis que Schweinsteiger, c'est le Bayern. Tu vois,
David, je me souviens beaucoup moi de Giovanni Elber. Il se situe où il se situe juste après dans la hiérarchie.
Voilà, exactement, Ludo, parce que c'est quand ils font des réunions entre anciens au Bayern, et Elber est là. Il est aussi ambassadeur, me semble-t-il, pour l'Amérique du Sud. C'est aussi une légende. Il a des statistiques peut-être un peu moins affolantes que les autres. Et puis aussi, il a, comme le disait à l'instant Jonathan, il a aussi été bon dans d'autres clubs. Pour moi, les trois principaux en attaque, c'est Müller, Rummenigge et Uli.
Et Lewandowski aura peut-être sa place quand on
continue comme ça. Oui, j'y ai pensé. Il va falloir peut-être que Lewandowski arrive à faire gagner au Bayern, peut-être cette saison, qui sait, une Ligue des Champions. Et là, évidemment, il rentrerait dans les tout meilleurs.
On est à peu près d'accord sur ton équipe, donc. Hein. Maintenant, on va se marrer avec l'équipe Pipe, parce que c'est quand même le plus drôle, hein. On va pas se mentir. allez, vas-y, balance.
4-4-2 à nouveau. Alors, le gardien Pipe, c'est Rensing, parce que Rensing était le successeur désigné d'Oliver Kahn, et ça a fait un flop retentissant. Il a passé 50 matchs, il a joué 50 matchs en 7 ans au Bayern. Alors qu'il était censé être le prodige. Il est aujourd'hui à Düsseldorf. Très bon gardien sur sa ligne, mais il n'était pas du tout dans le coup pour être un gardien moderne.
La défense
En défense, le numéro 1 des Pipes, c'est Breno, le Brésilien, qui a été arraché en 2008 à la Juve, au Real Madrid, pour 12 millions d'euros, une somme stratosphérique. Et puis Breno, ça a été la catastrophe totale. Il a joué 2 matchs la première saison, il a brûlé sa maison.
C'est pas si drôle que ça comme histoire. Hein.
Non, c'est pas drôle.
Il a des gros problèmes psychologiques après.
Ouais, tout à fait.
À ses côtés, Serdar Tasky. Alors ça, c'est récent, mais c'était un flop retentissant pour faire le nombre. Au Bayern,
j'ai une petite faille sous les yeux. J'ai vu que t'as mis Ismaël entre parenthèses. Il est hors de question qu'un Strasbourgeois apparaisse dans cette équipe Pipe. Je te préviens.
Heureusement qu'il y a Breno, parce que sinon Valérien Ismaël est pas considéré comme une grande réussite au Bayern, alors que tu le sais très bien, Gilbert. Il avait été bon, très bon même au Werder Bremen. Mais au Bayern, il est considéré comme un semi-flop hein, quand même. Voilà pour la défense centrale.
Ensuite,
on aurait pu mettre Thomas Berthold arrière droit parce qu'il a été champion du monde et il est venu au Bayern, il a joué au golf, il n'a fait que ça. Mais il y avait Tobias Rao, international aussi, qui a fait un flop incroyable en arrivant au Bayern.
Janssen
à gauche, Marcel Janssen. Pareil, ça devait être un super joueur. Finalement, il a fait un flop incroyable. On aurait pu mettre Contento aussi.
Ah ouais, Contento, qui était à Bordeaux. Au milieu, t'as qui ?
Milieu de terrain, Sébastien Deisler, vaincu. Alors ça devait être le meilleur joueur de l'histoire de l'Allemagne, je m'enflamme un peu. Il a été en dépression, il a été blessé.
Ah oui,
il n'a rien pu faire alors qu'il a passé de nombreuses saisons au Bayern. On peut citer un des Asiatiques aussi, Ali Daei.
Ah, l'Iranien Daei.
Voilà, l'Iranien. Il y a un Suisse, Alan Sutter. Alan Sutter pour les francophones, qui a été aussi un flop incroyable au Bayern au milieu de terrain.
David et Götze
aussi.
Et Mario Götze.
Bah Götze, je l'avais mis entre parenthèses, j'aurais pu le choisir aussi.
Et devant.
Et puis il y a un Argentin, Sosa. Qui a été aussi un flop incroyable.
C'était un bon joueur à l'Estudiantes, mais sans plus. Hein.
Vas-y, ton doublé d'attaque vite fait en retard.
Mazinho, le Brésilien, qui était là pour améliorer la Bundesliga et qui a été un flop terrible. Et puis Yann Schlaudraff, qui venait d'Aix-la-Chapelle, qui avait marqué un but, qui avait condamné le Bayern en coupe. C'est pour ça que Uli Hoeneß avait voulu le recruter.
Le syndrome PSG.
Finalement, il n'a rien fait au Bayern et il est reparti la contre les gens.
T'aurais pas mis Jean-Pierre Papin?
On peut.
Parce que quand même.
Il était en fin de carrière au Bayern. Ouais.
Merci David. Il y a quelques noms que j'avais oublié moi. J'avoue que.
Salut messieurs.
Papin. Allez David.
Non mais Papin, oui.
Pronic sinon, le croate.
Demain vous êtes là, hein.
Ouais.
Avec Jean-Christophe Drouet.
Parfait.
Voilà. T'as
pris un petit RTT.
Bah, un petit jour de repos, quoi.
Ouais. Bon. Très bien. L'a mérité ou pas?
Je sais pas. Peut-être. En tout cas, demain vous serez là à 22h. Bonne nuit à tous et à demain soir dans l'after.
Ciao.
RMC. L'After Foot.